On va ouvrir la parole de Dieu sans tarder, s'il vous plaît, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons lire le chapitre 3. Nous allons faire une lecture pour mieux nous imprégner du contexte dans lequel notre pensée se trouve. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1er. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens et il leur dit ceci. « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part ? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. » Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui, lui, est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. C'est sur ce verset que j'aimerais que l'on puisse s'attarder un instant. Une somme d'informations que l'apôtre Paul nous donne dans ce passage qui compare Moïse, la gloire que Moïse avait reçue de la part de Dieu à celle que Jésus a reçue. Et Paul montre par ses lignes véritablement que même si Moïse avait reçu quelque chose de la part de Dieu, ce qu'il avait reçu était passager. C'était en prévision de ce que Jésus allait accomplir. Moïse étant un type de Christ, à communiquer au peuple d'Israël ce que Dieu avait en vue pour eux. Mais nous étant sous la grâce, nous avons Jésus. Et comme Paul l'a dit dans ses lignes, ce que Moïse a donné à Israël, c'était passager. Mais par la grâce de Dieu, nous avons Jésus, celui qui est permanent. Et la gloire que Jésus communique à son Église est quelque chose qui demeure. Et c'est ce à quoi, véritablement, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit rechercher. Il dira Paul au verset 18, nous tous qui contemplons, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Pas celle que Moïse a montrée à Israël, parce qu'il devait mettre lui un voile. Mais Jésus, l'image parfaite, celui qui est venu véritablement de la part de Dieu, voilà quelque chose de glorieux. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur Jésus. Le titre de ce message ce matin, frères et sœurs, c'est « Refléter Christ ». Refléter Christ. J'ai eu du mal pour ce message. Vendredi, j'avais préparé un message. Et avec Joël, quand il préparait son message pour l'après-midi, il me demandait, pour le soir, il me demandait est-ce que j'avais fini. Je disais oui, j'ai fini, mais il fallait que je travaille encore. Mais hier, voilà, tout était fin prêt, tout était fini. Hier, pendant que nous étions en famille, il y a cette pensée qui s'est imposée fortement à mon cœur. Et j'ai dit à mon épouse, il faut que je retourne à l'assemblée. Il était presque 21h, 22h. Donc je suis revenu là. Et j'ai laissé véritablement le Seigneur parler à mon cœur. Et en toute humilité, frères et sœurs, je veux partager avec vous ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Parce que je crois véritablement que il y a quelque chose d'essentiel que le Seigneur désire que nous recevions ce matin. Savez-vous qu'il y a un ministère commun à tous les enfants de Dieu? Il y a un ministère commun. Je ne vous parle pas des ministères dont il est question dans la parole. Mais il y a un ministère commun à tous les enfants de Dieu, à toute personne née de nouveau et qui se réclame de la grâce de Dieu. C'est la vocation de tout enfant de Dieu. Vous savez, parfois on cherche à courir après des services, des ministères. Mais il y a là quelque chose d'essentiel en lisant ce que l'apôtre Paul nous dit uniquement dans ce verset 18. Et aucun ministère, aucun service que nous puissions faire pour le Seigneur ne pourra plaire au Seigneur s'il ne provient pas de ce ministère-là. Vous savez, ce ministère, on n'a pas besoin de talent pour l'accomplir. Donc, il est accessible à tous les hommes. Il est accessible à vous et moi. Par rapport à ce point, nous sommes sur le même pied d'égalité, frères et sœurs. Il n'y a pas le pasteur au-dessus, non. Nous sommes tous enfants de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons à accomplir ce même ministère. Vous savez, tous ceux qui désirent faire la volonté de Dieu dans leur vie se doivent d'accomplir ce ministère. Et ce ministère, c'est refléter Christ. Refléter Christ. Voilà un ministère commun à tous les enfants de Dieu, à toute personne qui se réclame de Dieu, à toute personne née de nouveau. Ce dont le Seigneur attend de nous, c'est cela. Nous tous, dira Paul, le visage qui est le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Contempler, refléter. Le terme grec dans l'usage, il est très fort. C'est quelque chose qui est au-delà d'un simple regard. Il ne suffit pas simplement regarder. Mais le terme utilisé veut dire véritablement focaliser l'attention sur ce que nous voyons. Par la foi, nous voyons Christ. Même si physiquement nous ne le voyons pas, nous savons véritablement qu'il est là présent au milieu de nous. Nous savons qu'il est dans notre cœur. Et puisqu'il est là, même si nous ne le voyons pas physiquement, nous ne regardons pas simplement Jésus, mais nous nous focalisons sur lui. Cela veut dire avoir une attention soutenue. Vous savez, on peut regarder sans se focaliser. On peut regarder sans faire attention. Ce qui est demandé de tout croyant, de tout enfant de Dieu, c'est fixer nos regards, non pas sur un homme, C'est fixer nos regards, non pas sur un leader, c'est fixer nos regards, non pas sur un pasteur, mais fixer nos regards sur le Seigneur Jésus. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, frères et sœurs. Si nous voulons véritablement être ses témoins fidèles pour le Seigneur dans ce monde qui est... Vous savez, le monde, il est perdu. Avec la situation qui prévaut dans ce monde, on réalise que l'homme n'est rien. Même les grands de ce monde sont démunis. Mais le seul qui soit capable véritablement de nous venir en aide, c'est celui sur qui nos regards doivent se fixer. Fixer nos regards de façon soutenue, avec cette détermination de voir la gloire de Dieu à travers Christ. À travers Moïse, le peuple de Dieu voyait la gloire de Dieu. Mais comme nous l'avons lu, Paul disait, cela était passager. C'était passager. C'était pour un temps. Mais avec Christ, nous contemplons la véritable gloire, celle qui demeure. Et refléter Christ, c'est véritablement cette transformation qui doit s'opérer en nous, être semblable à Christ, à l'image de Dieu. Vous savez, quand on aspire à être semblable à quelqu'un, cela suppose que la personne a quelque chose de plus que nous. Je ne vais pas aller vouloir être semblable à quelqu'un. Si la personne n'est pas plus que moi ou n'a pas quelque chose de plus que moi, je ne sais pas vous, mais ce n'est pas logique. Quand on veut être quelqu'un, c'est qu'il a quelque chose qui nous attire. Il y a quelque chose de plus. Et Paul vous dira, voilà, reflétez Christ. Et qui est ce Christ dont nous devons contempler, dont nous devons fixer, porter notre attention? Nous allons lire quelques versets. Dans son épître aux Colossiens, l'apôtre Paul parle de Jésus comme étant l'image de Dieu. Il dira ceci, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Il parle de celui qui est venu sauver l'humanité, de celui qui est venu livrer sa vie comme étant le reflet de celui qui ne peut être vu, à savoir Dieu. Vous savez, or, si Dieu ne peut être vu, comment peut-on le connaître? Si Dieu ne peut être vu, comment les hommes pourront-ils le connaître? Mais vous savez, Dieu savait tout cela. Il savait véritablement que ne pouvant être vu par les hommes, il ne pouvait être connu. C'est pour cela qu'il a donné Jésus. C'est pour cela qu'il a envoyé le Fils de Dieu. Il a fait de son Fils son représentant légal. Il a fait de son Fils son représentant fidèle. Et à travers Jésus, la nature et l'être même de Dieu sont parfaitement révélés aux hommes à travers lui. Alors que Jésus s'adressa à ses disciples, lorsque Philippe est venu pour s'entretenir avec Jésus, il va dire à Jésus, « Montre-nous le Père. » Et dans Jean, au chapitre 14, verset 8, Jésus dira, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu. » Il dira, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Moïse était là pour être le représentant de Dieu auprès du peuple d'Israël. Mais Jésus montre là à Philippe qu'il est la personne même, le représentant légal de Dieu sur la terre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dans son épître, dans l'épître aux Hébreux, l'auteur parle de Jésus comme étant le reflet et l'empreinte même de Dieu. Vous savez, le mot traduit par empreinte de sa personne souligne là une correspondance entre le Fils et l'être même de Dieu. Il dira ceci: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses par lui. Il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses, etc. Ce qui montre véritablement par là la supériorité de cette révélation par rapport à celle d'avant. Il dira l'auteur: autrefois le Seigneur Dieu a parlé par les prophètes. On se rend compte que la révélation par les prophètes était quelque chose de supérieur, Dieu ne se donnerait pas la peine de donner une autre révélation. Mais au travers de Jésus, étant le reflet et l'empreinte de sa personne, cela nous montre véritablement que la révélation qu'il est venu donner est d'autant plus importante et plus grande que celle des prophètes. Voyez-vous, nous sommes là devant quelque chose d'important. Si celui qui n'a pas honte de nous appeler frères est le reflet de la gloire de Dieu, qu'en est-il de nous? De qui sommes-nous le reflet? Je me pose la question. Posons-nous cette question. Il est dit dans la parole que Jésus, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. N'est-ce pas? C'est notre frère. Et mon frère est le reflet du Père. Et moi alors? Et moi? Vous me direz, c'est logique. Mais vous savez, ce qui est logique parfois n'est pas tout à fait logique. Parce qu'il y a tout de même une part de responsabilité de tout un chacun. Mais on se rend compte qu'il y a un but de Dieu pour les hommes. Si Paul dit à tant des hommes qu'ils soient le reflet de la personne, on réalise quand même que Dieu, avant la création, avait déjà ce but pour l'humanité, pour les hommes. Dans Romains au chapitre 8, versets 28 à 29, Paul montre que Dieu veut faire des hommes sa propre gloire. Il veut se glorifier en l'homme. Il dira ceci: nous savons tout, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Nous avons été prédestinés. Bien avant que nous venions sur la terre, c'était déjà dans le plan de Dieu que nous reflétions sa personne. Voyez-vous, frères et sœurs, on se rend compte quand même que nous servons, nous sommes au bénéfice d'un Dieu qui n'est pas égoïste. Dieu nous veut à son image, et c'est à cause de cela, quand on fait un feedback, quand on fait un retour en arrière dans le livre de la Genèse, n'est-ce pas ce que Dieu a dit quand il va mettre à exécution sa parole? Dans Genèse au chapitre 1er, verset 26, il dira: faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alors, la question que l'on peut se poser, si l'homme était prédestiné à être à l'image de Dieu, qu'en est-il à cause du péché? Qu'en est-il à cause du péché? Puisque le péché a altéré cette image que nous portons au préalable. Le péché est venu détériorer un peu l'image que nous aurions dû avoir dès le départ. Mais vous savez, tout n'est pas perdu. Et c'est ce que j'aime de Dieu, parce que malgré tout, bien que l'homme se soit détourné de Dieu à cause du péché, Dieu, dans sa grâce, est venu encore vers l'homme. C'est pour cela qu'il a donné Jésus, afin que par lui, l'homme puisse voir ce que Dieu avait prévu et ce que Dieu voudrait qu'il soit. À travers Jésus, je peux voir l'image parfaite de Dieu et ce que Dieu a désiré dès le départ que nous soyons. Il est l'image parfaite du Dieu vivant. Vous savez, il a fallu qu'il dépose sa vie en nous pour que nous soyons vivants. Il a fallu. Et être semblable à l'image du Fils, voilà la véritable intention de Dieu à notre égard. Le réalisons-nous, frères et sœurs. Réalisons-nous véritablement ce que Dieu a voulu pour nous dès le départ. Que nous reflétions sa gloire. On pourra se poser la question, comment cela se produira-t-il? Vous savez, comme je l'ai dit, le péché a tout gâché. Mais gloire soit rendue à Dieu, par Jésus, il y a un espoir. Par Jésus, à cause de sa vie livrée à la croix, je peux tout de même laisser le soin à l'Esprit de Dieu de transformer ma vie. Mais vous savez, cette transformation que va opérer le Seigneur est partielle. Parce que sur la terre, nous n'atteindrons jamais la perfection. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas aspirer à cette transformation. Parce que j'ai en vue ce que le Seigneur a prévu pour moi dans son ciel de gloire. Parce que pour que je sois avec Christ dans le ciel de gloire, il faudrait que j'accepte sur la terre la transformation que doit opérer le Saint-Esprit en moi. Il faut cette transformation progressive dans la vie du croyant. L'apôtre Jean dira ceci dans sa première épître au chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est une évidence à cause de Jésus. Mais regardez ce qu'il va dire. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous savons, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. L'ultime transformation sera dans le ciel. L'ultime transformation. Quand je verrai Jésus face à face, je serai auprès de celui qui a donné sa vie, qui a frayé le chemin pour que par lui, je sois rendu semblable. Vous savez, frères et sœurs, parfois on s'arrête uniquement à notre identité d'enfant de Dieu. C'est bien. Mais si je me contente simplement de dire je suis enfant de Dieu, sans au préalable laisser le soin au Seigneur de faire ce qu'il a à faire en vue véritablement de ce qu'il a prévu pour moi, je peux passer à côté. Il dira à l'apôtre Jean, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Ça c'est une réalité pour celui qui par la foi a accepté l'œuvre de la croix et qui a livré sa vie. Mais il dira ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est pour cela qu'il est important que nous acceptions, bien que cela soit parfois, entre guillemets, difficile à vivre, l'œuvre de sanctification dans notre vie. C'est quoi la sanctification? Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, je dois réaliser que ma vie ne m'appartient plus. Ça, on ne veut pas l'entendre. Hein. On ne veut pas l'entendre parfois. En tant qu'enfant de Dieu, ma vie ne m'appartient pas. Et je dois vivre ma vie de chrétien tout en étant séparé de ce qui attriste le cœur de Dieu. Quand le Seigneur, dans sa parole, nous appelle véritablement à cette démarche de sanctification, tout comme Dieu, à travers Israël, demandait au peuple de ne pas s'unir à des choses qui sont contraires à ce qu'il a dit dans sa parole, avec Jésus, c'est pareil, avec son Église. Puisqu'il a livré sa vie pour moi, pour que je sois dégagé de la condamnation du péché, ma vie chrétienne doit être vécue tout en étant séparée de cette vie de péché, tout en étant mise à part pour Dieu. C'est ça, être semblable à Christ. Parce que si je vis ma vie comme bon me semble, comment je vais refléter Christ ? Parce que ce n'est pas ainsi que Christ est venu vivre sa vie sur la terre. Il est venu révéler Dieu aux hommes. Alors, Paul dira ceci dans Éphésiens chapitre 4, verset 20. Éphésiens chapitre 4. Il dira ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Paul, en s'adressant aux chrétiens d'Éphèse, leur parle de cette vie de mise à part. C'est ce que Dieu va dire à Israël. Puisque je suis saint, soyez saints. À cause de ma sainteté, mettez-vous à part. Vous savez, cette sainteté provient de. C'est le projet de Dieu lorsqu'il a conçu l'humanité. Et si je réalise le plan de Dieu pour ma vie bien avant la fondation du monde pour que je sois à son image, je dois mettre en corrélation cette sainteté avec cette façon de vivre. Dans Éphésiens au chapitre 1, verset 4, il dira ceci, l'apôtre Paul, pour montrer que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Il dira, Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Avant la fondation du monde. C'était dans le plan de Dieu. Et je réalise au travers de ces deux lectures qu'il ne peut y avoir de véritable transformation sans cette vie de mise à part pour Dieu. Je ne peux pas être semblable à Dieu si je n'accepte pas que l'Esprit de Dieu pointe du doigt ce qui ne va pas dans mon cœur. C'est en cela qu'il me permettra. Parce que tant que l'Esprit de Dieu ne révèle pas ce qui est caché, on croira que tout est bien. Alors, ma responsabilité, j'en viens à ma responsabilité, à notre responsabilité. C'est de confier notre vie au Seigneur, car ce que Dieu veut dans nos vies, vous savez, n'est que pure grâce. On ne réalise pas. Il veut que nous soyons comme lui. C'est une grâce quand même. Parce que malgré le péché, il est venu tout de même vers nous, il nous a tendu la main. Parce qu'il aurait pu nous laisser livrer à nous-mêmes. Mais combien notre Dieu est grand. Et quand je réalise cela, que Dieu veut mettre la nature de Jésus, il voudrait que la nature, sa propre nature, devienne la mienne. Devenir comme lui, c'est ce que l'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 3. 2 Pierre chapitre 1. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je réalise quand même que, à travers la parole de Dieu, Dieu a donné à ses enfants tout ce dont ils ont besoin pour devenir semblables à lui. Je réalise en lisant la parole et en me laissant interpeller, quand nous nous laissons interpeller, nous nous réalisons que Dieu nous a donné tout ce qui est là pour que nous puissions développer les qualités morales qu'il a, lui. Et l'attente de Dieu, je termine avec ceci. C'est ce que Paul va dire aux Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et par la suite, il parle d'humilité. Vous savez, l'attente de Dieu, véritablement pour nous, pour que nous soyons semblables à lui, c'est que nous développions ce sentiment d'humilité. Jésus, le Fils de Dieu, s'est humilié pour venir jusqu'à nous. Il dira, Paul, il n'a pas regardé comme une proie arrachée à se faire égal à Dieu. Il était Dieu. Il pouvait revendiquer véritablement cette position. Mais l'humilité l'a amené à la croix. Alors, frères et sœurs, ce matin encore, tout à nouveau, je réalise ce que Dieu attend de moi. Je réalise ce que Dieu attend de moi. Chacun parlera pour son compte. Je réalise ce que Dieu attend de moi. Le Fils de Dieu, s'humiliant pour être cloué à la croix à cause de moi, combien à plus forte raison, combien à plus forte raison, je me dois de me faire petit pour que Dieu soit vu en moi. Souvenez-vous de ce que Paul va dire aux Galates, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Alors qu'il était l'apôtre Paul quand même. Avant sa conversion, Paul, c'était pas n'importe qui. Il était craint. Mais à partir du moment où il va faire cette véritable rencontre avec le Seigneur, il va mettre de côté son ego. Oh, combien, frères et sœurs, l'Église a besoin de rester humble devant Dieu. Combien j'ai besoin de m'humilier, de me faire petit, pour que lorsque les hommes me voient, ils ne me voient pas, mais ils voient Christ en moi. C'est le but de notre existence sur la terre. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est le but de notre existence sur la terre. Non pas que je sois vu, que lorsque je suis là, qu'on parle de Frédéric, c'est pas ça l'essentiel. Qui suis-je? Même l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, qui est Paul? Qui est-il? Pourtant, il était quelqu'un, mais il s'est humilié pour que Dieu puisse véritablement travailler en lui afin qu'il soit ce témoin. Dans Jean au chapitre 15, Jésus parle d'un autre sentiment. Jean chapitre 15, verset 10 à 11, il dira ceci. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Il parle de l'obéissance à Dieu par sa parole. Cette parole qui est puissante pour transformer nos vies, C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 4. Pour transformer ma vie. Pierre dira, c'est sa divine puissance. Parce que je ne peux pas opérer cette transformation en moi-même. Il faut véritablement que je m'humilie. Alors, quelle est la finalité de tout cela, frères et sœurs? Quand je laisse le Seigneur me transformer à son image, quand je vis ma vie à être semblable à l'image de Christ, quand je suis dans ce processus de transformation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que quand je suis dans ce processus-là, je ne vois plus avec mes yeux humains. Je ne pense plus avec ma propre sagesse. Parce que quand je suis transformé à l'image de Dieu, je vois mon frère, je vois ma sœur, je vois l'Église avec les yeux du Seigneur. Quand je me laisse transformer par le Christ, je ne suis plus là à voir les défauts des uns des autres. Mais je dis, Seigneur, bien qu'il ait des défauts, c'est vrai, tu es mort à la croix, viens à son secours. Quand je suis transformé à l'image de Christ, je laisse les sentiments. C'est l'amour qui supplante toutes choses. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas le jugement, c'est la compassion. C'est ce qui me permet véritablement de permettre au Seigneur de travailler, de faire ce qu'il a à faire, afin que lorsque ceux de dehors nous voient, ils puissent réaliser ce dont ils n'ont pas, pour avoir envie de se joindre à nous. Quand je me laisse transformer, j'accepte les préceptes de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, on chante un chant, et je vais demander à Henri s'il veut bien. Excusez-moi. On le chante, « Te ressembler, Seigneur, c'est mon espoir suprême. Penser, agir comme toi. » Mais vous savez, en toute humilité, parfois on le chante sans réaliser ce que nous chantons. Et ce matin, au travers de sa parole, le Seigneur nous interpelle. Que cela soit notre aspiration. La question que j'aimerais que l'on se pose avant de prendre juste ce chant ensemble. Quelle est mon aspiration en étant rentré dans ce lieu? Quelle est mon aspiration? Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Qu'il vienne simplement résoudre mes problèmes? Qu'il soit là quand je lui fais appel? Qu'il me touche là, quand j'ai mal? Qu'il pourvoie à mes besoins? Oui, ces choses, le Seigneur le fait. Parce qu'il est Dieu. Mais mon aspiration doit être au-delà de ce que Dieu me donne. Mon aspiration doit aller dans le même sens que ce que Dieu attend de moi. Parce que si je laisse le Seigneur faire ce qu'il a à faire, parfois je n'ai même pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Il le fait. Il le fait. Parce que je vis et je marche en conformité avec ce qu'il attend de moi. Nous sommes tous parents. Et quand on voit nos enfants véritablement obéir, parfois on n'a pas besoin qu'ils nous demandent. On fait, on donne pour faire plaisir. Voyez-vous, c'est la même chose avec le Seigneur. Alors, frères et sœurs, on va prendre ce chant dans un esprit de prière. Te ressemble, Seigneur. Et si quelqu'un a besoin Excusez-moi de prendre ce temps juste un instant. De dire, Seigneur, je suis rentré dans ce lieu. Et ma véritable intention, ma véritable aspiration, ça va au-delà de ce que je chante. C'est ce que je veux vivre. Te ressembler, Seigneur. C'est mon espoir suprême. Penser à agir toujours plus comme toi. Ce chant, s'il y a quelqu'un véritablement qui veut se manifester devant Dieu, nous sommes dans la présence du Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te ressembler. Oh, viens par ton esprit, pardonne-moi, mais agis par ton esprit afin que je sois semblable à toi pour véritablement témoigner de toi dans ce monde. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir. Pensez, agir, aimer, toujours plus grand. On se tient debout pour ceux qui le peuvent. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Ton esprit rend nous semblables à toi, Seigneur. Nous voulons véritablement être ces témoins pour toi dans ce monde. Nous voulons nous effacer pour que tu sois vu. Merci encore pour ta parole, parce que nous voulons être transformés de gloire en gloire, à l'image de celui qui a livré sa vie pour venir jusqu'à nous, Seigneur. Oh, le désir de mon cœur, Seigneur, c'est que tu sois vu. Je veux m'effacer, comme Jean-Baptiste a pu le dire. Il faut qu'il croie ce que je diminue, alors qu'il en soit ainsi au milieu de nous, Seigneur. Oui, règne en nous par ton esprit. Agis par ton esprit, Seigneur. Nous réclamons cette visitation. Nous réclamons cette transformation. Oh, dans notre vie de tous les jours, Seigneur, mon Dieu, bénis ton peuple ce matin. Merci encore pour ta présence, Seigneur. Si quelqu'un est entré dans ce lieu accablé, Seigneur, avec des soucis, avec une maladie, nous te supplions d'intervenir. Nous te prions pour, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui sont malades, Seigneur, étends ta main, mon Dieu, mon roi, manifeste ta puissance, bénis la fille d'Alexandra, Seigneur, renouvelle-la et visite-la, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons parce que tu es là au milieu de nous et tu agis par ta puissance dans le nom de Jésus, que ta volonté se fasse, amen. Ô Père éternel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.